Alors, le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est le doigt de Dieu. Vous savez que quand j'étais gamin, j'avais un cahier. J'allais à l'école et sur mon cahier, je m'appliquais. C'était du temps où on écrivait à la plume. Qui a connu ça ici? On écrivait à la plume. Et la première page, on écrivait super bien. La deuxième page, on contournait pas le sanglier, on mettait la plume dans le sanglier, on arrivait, paf, un gros pâté. Et l'instituteur, pour nous encourager, il faisait un grand rond et il écrit « sale ». Et si on essayait de gommer, on faisait un grand trou dans la page, c'était pire encore. Et on aspirait une seule chose, c'est qu'on vienne à la fin du cahier pour en avoir un neuf. Et quand on en avait un neuf, on s'appliquait à la première page. Et à la deuxième page, on maîtrisait pas, paf, un pâté. Mais c'est moi qui écrivais. Vous connaissez ça, la plume? Je vous parle d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Mais donnez, ça se vend encore. J'ai acheté ça chez moi, un encrier, une plume. Et je dis, quand j'écrirai des poèmes, j'écrirai avec ça, ça fait joli, n'est-ce pas? Vous écrivez de temps en temps des poèmes, hein, à votre femme? Je lui écris un jour, viens te promener dans les jardins parfumés de l'été, et là, au détour de nuées, loin des regards indiscrets, me donner des baisers. Qu'est-ce qu'elle a comme chance, Marie-Paul, n'est-ce pas? Alléluia! Alors des fois, je vais voir des frères et je dis, t'écris pas des poèmes à ta femme? Il dit, mais je sais pas écrire des poèmes, moi. Et elle s'appelle comment? Hélène. J'ai dit, parce qu'il roulait beaucoup à vélo, j'en ai parcouru des plaines, j'en ai usé des chaînes et enfin, j'ai trouvé ma belle Hélène. Oh là 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 là, qui dit, c'est facile pour toi. Non, c'est pas facile, mais il faut réfléchir un petit peu. Tu regardes ta femme dans les yeux et tu lui dis, ah, dans tes yeux, je vois tout le bleu du ciel. Amen. De temps en temps, quand même, c'est bien, n'est-ce pas? Ma femme, des fois, je lui dis le soir, chérie, on va au cinéma? Elle dit, oh non, je veux rester à ma maison. Elle est casanière un peu. Et cette semaine, vous voyez la différence entre les hommes et les femmes. Elle me dit, chérie, oui chérie, je veux aller au cinéma. Oui, vous voyez, moi j'ai dit oui tout de suite et je suis allé au cinéma. Elle m'a entraîné au cinéma. Alléluia. Et on a vu Jésus, l'enquête. Vous avez vu ça, Jésus l'enquête? Oh mais c'est bien, il faut le voir. Le film est bien, le débat après c'était moins bien, parce qu'il y a toujours des tripoteurs, il y a toujours des gens qui posent des questions et qui donnent aussi les réponses. Alors c'était pas vraiment intéressant. Mais le film, Jésus, c'est beau, gloire à Dieu. Comment une femme, elle a persévéré jusqu'à ce que son mari se convertisse et il rencontre Jésus. Il a fait toutes les démarches inimaginables pour prouver que Dieu n'existe pas. Mais pourquoi faire des démarches pour prouver que Dieu n'existe pas quand même? Et à la fin, il a rencontré Dieu. Quelle persévérance! Et j'ai trouvé que c'était un beau film. Et aussi cette dame qui a témoigné. Et combien de gens pourraient rencontrer Jésus si le peuple de Dieu, si l'Église se levait, si l'Église n'est pas une Église d'intérieur, mais une Église d'extérieur? C'est bien ça que tu voulais dire. Parce qu'après que tu es parti prêcher, et il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, mais Bruno, il est contre l'Église. Mais j'ai dit, non, Bruno, il n'est pas contre l'Église. Mais il veut voir une Église qui bouge, une Église qui marche, une Église qui est en marche. Amen. Voilà, ouais, gloire à Dieu. On va venir au message, hein. Amen. Le doigt de Dieu. Alors, vous savez, c'est extraordinaire parce qu'à un moment donné, dans le livre de l'Exode 8:15, il nous est dit que Dieu, vous connaissez tous les fléaux, et à chaque fléau, vous demanderez ça à votre pasteur, il pourra faire une étude biblique là-dessus, chaque fléau correspond à un dieu. Et ils avaient en Égypte beaucoup de faux dieux. Et au moment où il y a eu les poux qui ont envahi, là, vous savez, les poux qui ont envahi, je me souviens un jour, quand mes enfants étaient petits, Marie-Paul, elle regarde, parce que j'avais toujours une fille qui faisait ça comme ça, et c'était autour de Noël, comme ça, et d'un seul coup, je regarde plus attentivement, et en fait, il y avait une légion de poux. Alors ma femme, elle s'est mise un peu à pleurer, elle dit, mais... Je dis, mais on saura beaucoup pour Noël, ma chérie, on saura beaucoup pour Noël. Et quand il y a eu les poux, les Égyptiens, c'est-à-dire là, les magiciens et tout ça, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Et j'imagine que si ils avaient pris ça au sérieux, puisqu'ils avaient trouvé que c'était le doigt de Dieu, et que le pharaon dit à tous ces ministres-là, on va se repentir, on va se convertir, on va reconnaître le doigt de Dieu. L'histoire aurait été différente. L'Égypte se serait convertie. Chaque fois que Dieu écrit, c'est qu'il veut transformer quelque chose, changer, transformer, modifier. À Calais, ils ne sont pas nombreux. Je suis allé, j'ai prêché ce message et j'ai donné une page blanche à chacun. Je n'ai pas fait ici parce que j'ai dit, ils sont nombreux, ça va me revenir quand même un peu cher. Et imaginez que je vous donne, vous pouvez l'imaginer, je vous donne une page blanche. C'est interdit, vous n'avez pas le droit d'écrire. Mais vous allez laisser Dieu écrire. Frères et sœurs, je suis persuadé que Dieu veut écrire des choses nouvelles dans chacune de nos vies, quel que soit l'âge que nous avons. Est-ce que tu es sûr de ça, mon frère Bruno, que Dieu... Aujourd'hui, il veut écrire des choses nouvelles dans chacune de nos vies. Parce que vous, comme moi, on se laisse si souvent mettre dans une bulle religieuse, avec des « fais pas ci, fais pas là », et « touche pas ceci, touche pas cela », mais lorsque Dieu écrit, alléluia, il écrit des choses extraordinaires, il veut écrire dans ma vie. S'ils avaient pris au sérieux le doigt de Dieu, l'Égypte ne serait pas ce qu'elle est devenue. Il n'y aurait pas eu des multitudes de personnes qui seraient mortes dans le fleuve parce qu'ils auraient pris ça au sérieux. Est-ce que nous voulons prendre les choses au sérieux ? C'est difficile pour quelqu'un qui est rempli d'humour d'être sérieux parfois. Mais je suis sérieux. Dieu veut écrire quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que tu le crois ? Amen. Et il veut, à cause de cela, parce qu'il va écrire quelque chose de nouveau dans ta vie, enlever toutes les souffrances du passé, toutes les misères du passé. Et comme le diable aime bien nous replonger dans le passé, mais Dieu veut écrire quelque chose dans ma vie, dans ta vie, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Il veut le faire, alléluia, dites avec moi, il veut le faire. Et je suis sûr qu'il y a des sœurs qui disent, j'espère que mon mari va bien comprendre ça, parce que comme il a besoin de changer, n'est-ce pas? C'est vraiment, je suis content de l'avoir amené avec moi aujourd'hui, parce qu'il avait vraiment besoin d'entendre ça. Mais vous aussi, vous les femmes... Vous, les femmes, il y a quelqu'un qui dit qu'il connaît mieux les chants du monde que les cantiques, lui. Dieu veut tellement qu'on soit différent. Amen. Être des chrétiens remplis de la gloire de Dieu, c'est quoi? Sa présence, son cœur, son amour, sa puissance. Amen. Vous connaissez Capingan, c'est pas loin d'ici, Capingan. Il y a une dame qui est venue de Capingan à l'église chez nous. La première fois qu'elle est venue, elle a donné sa vie à Jésus. Son cœur a été changé. Amen. Et elle vivait avec un concubin. Et le concubin est venu me voir la semaine d'après et dit, dis-moi là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du quoi? Il dit, ben, elle veut plus coucher. Je dis, mais débrouille-toi avec elle. Jésus change son intérieur, il change son extérieur, amen. Ça ne veut plus dire qu'elle n'aime pas cet homme, mais elle veut régler sa vie par rapport à ce que Dieu demande. Amen. C'est pas moi qui l'a dicté, je vais aller la voir. Vous savez, des fois, il y a une dame chez nous, elle est spécialiste pour ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient à l'église, elle téléphone, fais pas ci, fais pas là, fais pas ci, fais pas là. Mais non. Laissons faire, laissons le Seigneur écrire dans la vie de ces personnes. Nous, on a à prêcher l'évangile et on a à vivre nous-mêmes l'évangile. Et après, laissons le Seigneur écrire des pages nouvelles dans la vie de ces gens. Amen. Quand Jésus remplit le cahier, il est beau du début jusqu'à la fin. Amen. Ah, gloire à Dieu. J'imagine. Comment peut-on s'imaginer? J'imagine. Moïse. Moïse, il a fait sortir le peuple du pays d'Égypte quand même. On doit avoir confiance en lui. C'était un homme extraordinaire. Vous y jamais imaginez combien de personnes, 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. L'autre fois, j'ai imaginé 600 000 personnes qui se suivent à queue-leu-leu comme ça. Ça faisait une rangée incroyable, de kilomètres incroyables. Et ce Moïse, cet homme de Dieu extraordinaire. Et ils ont vu la gloire de Dieu avec cet homme. Ils ont vu l'Égypte engloutie dans la mer. Et à un moment donné, Moïse dit, je vais monter sur la montagne. Avec des tables. Et au bout de quelque temps, le peuple qui a vu la gloire de Dieu au travers de Moïse, il dit, qu'est-ce qu'il est devenu ce Moïse? Il est où? Il est où? Il est où? Et pendant qu'il était parti, ils ont fait quoi? Ils ont sacrifié. Ils ont donné tout leur or, leur argent, les boucles d'oreilles, tout ce qu'il y avait, et ils ont fait un veau. Et ils ont dit, voilà le Dieu, celui qui nous a fait sortir. Oh, Seigneur Jésus, comme ce peuple de ce temps-là était dur. Heureusement que les choses ont bien changé aujourd'hui, Seigneur. Comme Seigneur Jésus, ils étaient de ceux qui ne considéraient pas les choses. Oh Jésus, s'il te plaît. Et si on avait posé la question à quelques-unes de ces personnes, on dit avec un micro, vous savez, mais il n'y en avait pas, ne sont là, et dit, mais dites-moi à quel Dieu vous appartenez, mais on appartient au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ah non, 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 ils auraient dit ça, mais en réalité... Il s'était fait un faux Dieu. Et c'est pour ça que quand on prie, on dit on a le même Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours vrai. Peut-être c'est le Dieu qu'on s'est fabriqué. Ah, le Dieu qu'on s'est imaginé. Un Dieu qui finalement nous arrange bien. Un Dieu qui ne parle pas. Qui ne dit rien. Qui nous laisse faire. Mais béni soit le Seigneur. Moïse était à la montagne et c'est le doigt de Dieu. Moïse, il était monté sur la montagne, il aurait rempli les pierres, il aurait dit au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu veux signer ici en bas, s'il te plaît ? » Est-ce que vous croyez que Dieu aurait signé ? Non, c'est lui qui écrit. Et pourtant, dans nos vies, parfois, on veut bien remplir la table et demander, s'il te plaît, Seigneur, signe. Ça, c'est religieux. Mais c'est Dieu qui écrit. Amen. Et il a écrit. Oh, quelle grâce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Il veut écrire avec son doigt dans ma vie, à l'intérieur et à l'extérieur de ma vie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il veut le faire pour toi, il veut le faire pour toi, ma sœur. Mon frère, jeune homme, tu ne peux pas savoir à l'avance. Mais jeune homme, donne toute ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, je ne veux rater rien de toi. Je veux, Seigneur, que tu écrives avec ton doigt dans ma vie, Seigneur, afin que je puisse resplendir dans ce monde de ténèbres la puissance de la gloire de Jésus. Amen. que cette parole, ce soit le droit de Dieu et qu'elle est incisive. Amen. La Bible dit, le temps venu aujourd'hui où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais se feront une foule de docteurs. Ils aimeront entendre des choses agréables, nous caresser dans le sens du poil. Vous avez remarqué votre chat, quand vous le caressez, il ronronne. Un peu comme ça. Mais essayez de tourner dans le... Allez, faites-le. Voilà, quand vous dites à votre femme, tu sais, tu es la plus belle, tu es la plus jolie, etc., elle ronronne. Amen. Ou bien tu dis, tu ne trouves pas que tu devrais faire quelque chose avec ta chevelure parce que ça te vieillit un petit peu. Quoi ? Sauf la mienne. Amen. Moïse est descendu, et il entend du bruit des chants. Il dit, ah, ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de m'attendre avec un chant de louange. Ils sont en train de m'attendre. Ils ont persévéré dans l'attente. 40 jours. Quelle déception quand il arrive. Ils étaient en train de célébrer un faux Dieu. Alors Moïse, il a cassé les pierres. L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme Dieu aurait pu depuis longtemps s'arrêter avec nous, parce qu'il a voulu écrire et nous ne l'avons pas écouté, parce que nous nous sommes divertis à autre chose qu'à écouter Dieu. Mais comme Dieu est riche en amour, il va permettre que les tables soient écrites à nouveau. Peut-être aujourd'hui, c'est la deuxième fois que le Seigneur te parle. Peut-être il est en train de te dire, la première fois, tu n'as pas écouté. Tu as vu ce que ça t'a coûté de ne pas écouter. De ne pas laisser écrire dans ta vie. Veux-tu m'écouter cette fois ? Est-ce que tu veux bien que j'écrive ? Quel amour Dieu il a pour nous, n'est-ce pas ? Quelle grâce ! Jésus ne nous abandonne pas. Il renouvelle son amour. Il veut écrire. Alors Moïse est remonté. En réalité, il a jeûné 80 jours. 40 jours et 40 jours, Moïse. On n'arrive pas à s'ajeuvir encore. Hein ? Oui. Je ne sais pas quel genre d'estomac il avait, mais... Seigneur, gloire à toi. Dans l'Évangile, il y a un passage que j'aime beaucoup qui illustre un peu cela. Jésus dit, venez car tout est prêt. Venez, réjouissez-vous dans mon royaume. Venez. Et Jésus n'arrête pas de dire cela. Venez, venez. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, dit Jésus. Comme on dilapide beaucoup notre temps, notre énergie, parfois pour des futilités. Et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, Seigneur, on n'a pas le temps, on est pressé, on court. Seigneur, mais si on pouvait t'écouter, te laisser écrire. Ces gens qui ont été invités venaient parce que le repas est servi. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire que mettre... Moi, je suis content, je vais manger chez Bruno. Et on est content parce que, un, ce sont des bons cuisiniers. Enfin, jusqu'à ce jour. Mais, amen. On met les pieds sur la table. Et tout est prêt. Tout est prêt. Mais tous se sont excusés aussi. Les gens ont dit, mais je ne peux pas vous dire, Seigneur, parce que je viens de me marier. Oui, c'est bien, mais tu as le temps de te réjouir avec ta femme. Voyez-vous, moi, ça fait 47 ans que je me réjouis avec Marie-Paul. Amen. Mais au début de notre mariage, on a su prendre le temps pour écouter Dieu. Et si ça dure, et ça dure dans l'amour qui est renouvelé chaque jour, quand je la regarde, des fois, je dois baisser les yeux parce que ça me fait des choses incroyables. Elle a toujours les mêmes yeux qui percutent comme ça, voyez-vous. Amen. J'ai pas le temps, Seigneur. Je viens de me marier. J'ai pas le temps parce que j'ai acheté des bœufs et je dois les essayer. J'ai pas le temps, Seigneur, parce que j'ai acheté un champ. Il faut que j'aille les voir. C'est dommage. Ils ont perdu beaucoup. Ils vivent dans le temporel alors que Dieu voulait leur donner des biens éternels. Chacun de nous, on vit dans le temporel. Il faut se lever le matin pour aller travailler. Sauf chez les chrétiens, mais combien j'ai entendu cette phrase-là. T'es content, t'es heureux, oui, comme un lundi, parce que c'est le lundi qu'on reprend le boulot, mais jamais chez les chrétiens. Ils sont heureux le lundi au mardi, vendredi, ils sont toujours heureux, les chrétiens. Amen. La vie augmente, ils sont quand même heureux, alléluia. Ils vont à la caisse, ils voient que ça a augmenté, ils sont quand même heureux, alléluia. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils ne payent plus, hein, ma fille, un jour, mes petits-enfants disaient, quand on leur disait, on n'a plus de sous, on ne peut pas acheter ça, t'as qu'à faire comme mamie, elle paye avec un papier. Amen. Et nous, on est heureux. Alléluia. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait ça. Je suis heureux. Amen. On est heureux parce que Dieu n'en a pas fini avec nous. Il veut écrire. Il veut écrire. Il veut écrire encore et encore dans ta vie. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle parce que Dieu écrit à l'intérieur et tu vas exprimer à l'extérieur ce que Dieu a écrit à l'intérieur de ta vie. Amen. Et quand il écrit à l'intérieur de mon cœur, alléluia, à l'extérieur, il ne peut pas s'exprimer autre chose que ce qu'il a écrit à l'intérieur. Le pardon, l'amour, la grâce, la vie. Amen. Oh, quel Dieu d'amour. Quel Dieu d'amour. Si tu savais... Quand le diable y vient te reprocher ton passé, s'il te plaît, ne te laisse pas avoir. Parle-lui de son avenir. Amen. Tu sais que tu vas bientôt cramer dans les flammes. Tout ça. Amen. Yeah. Savoir écrire, savoir lire plutôt aujourd'hui, Daniel 5:5, à un moment donné, sur un mur blanc, comme ça, chaud, il y avait le doigt de Dieu. Et d'un seul coup, il a été choqué parce qu'il est devenu pâle, parce que le doigt de Dieu écrivait sur le mur, là. Mais personne ne savait lire ce qui était écrit. Frères et sœurs, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire ce que Dieu a écrit, ce qu'il écrit. Et heureusement, il y avait un Daniel. Et heureusement, il y a vous. Amen. Vous savez lire ce que Dieu écrit. Gloire à Dieu. Parce que vous vivez tellement près de lui que vous connaissez les pensées de Dieu. Et j'imagine Jean quand sa tête était sur le cœur. Il sentait le cœur de Jésus battre. Et comme j'aime bien écrire les épîtres de Jean, et il parle beaucoup de quoi ? L'amour. Amen. Vous savez que c'est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. Mais dans 1 Jean 3,16, vous ne pouvez pas l'oublier, Jean 3,16, nous aussi, nous devons aimer nos frères et donner notre vie pour eux. Amen. Laissez Dieu écrire. Laissez Dieu écrire. Nous, on a une dame à l'église, elle a 92 ans. Elle fait la route avec sa propre voiture. Elle ne se plaint jamais. Un jour, j'ai dit, tu vas aller faire la réunion de jeunesse. Hein? Et elle est allée faire la réunion de jeunesse. Alléluia. Amen. On a une prédicateur ce matin, ce soir. C'est Maria, elle a 92 ans. Alléluia. Et elle ne se plaint jamais. Amen. comme vous. Et pourtant, elle ne connaît pas ses parents. Elle a été abandonnée quand elle était enfant. Elle a été élevée par des fermiers. Elle m'a dit, Guy, le jour de ma communion, c'est moi qui devais lire le texte. Et juste un moment avant, le prêtre lui dit, non, c'est pas toi qui vas le lire. Elle a été humiliée. C'est les enfants du fermier qui vont lire. Toute sa vie. Mais une chose extraordinaire, elle a rencontré Jésus. Et un jour, je dis, Maria, tu ne pourrais pas écrire un livre, s'il te plaît, sur ta vie, pour qu'il nous reste quelque chose. Et elle m'a dit, mais Guy, je ne sais pas écrire, c'est rien, on va te donner un ingre. Mais elle n'a pas trop compris. J'ai un peu expliqué. Puis il n'y a pas longtemps, elle est allée dans une fête parce qu'elle va éplucher les légumes tous les jours à l'école pour la cantine. Hein, à 92 ans. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas la peine que j'ai chez elle, je la trouve jamais à la maison. Amen. Un jour pour Noël, j'ai mis un grand cajot de légumes, des poireaux, des carottes, des céleris, tout ça. Et elle a téléphoné partout. Et une dame a dit, c'est peut-être ton pasteur. Alors elle me téléphone, c'est pas toi qui as mis ça devant ma porte. Je dis, mais, chère Maria, c'est Noël, c'est le Père Noël. Il n'y a pas longtemps, elle va dans une fête. Quelqu'un dit, Maria, écoute, est-ce que je pourrais remonter ton arbre? Elle dit, oui, si tu veux. 15 jours après, il est venu la voir. Maria, tu n'as pas été abandonnée. Tu as des frères et sœurs qui habitent en France. Ta maman était enceinte quand elle était jeune fille. Elle a été obligée de t'abandonner. Ta mère est polonaise. Ton père est russe. Waouh! Amen! Elle s'accroche à la vie. Il y a un chant comme ça aussi, s'accroche à la vie. Parce que finalement, le livre, elle va l'écrire, mais elle aura beaucoup d'éléments. Et sa fille, je lui dis, n'oublie pas d'écrire ce qui est le plus important dans sa vie. Dieu veillait sur elle depuis le début, n'a jamais abandonné. Et Dieu a écrit des choses dans sa vie extraordinaires. Quand Daniel a lu cette... Ce roi-là, il était là, et vous savez, ils étaient en train de manger dans les récipients qui étaient consacrés à l'Éternel. C'est grave comme situation, quoi, frères et sœurs. Et le doigt disait, peser, compter, diviser. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ce qui est consacré à l'Éternel est consacré à l'Éternel. Ta vie est consacrée à l'Éternel. Elle ne peut pas servir à autre chose qu'à l'Éternel. Et si tu utilises ta vie pour autre chose, peut-être un jour Dieu te dira aussi, compter, peser, diviser, tu as été trouvé léger dans la balance. Mais je ne veux pas penser à ça, je veux penser que vous êtes en marche et que Dieu va écrire une page nouvelle dans votre vie et que la gloire de Dieu sera manifeste pour chacun de vous. Amen. Je veux croire qu'un jour, je viendrai dans cette église ici et que vous ne seriez peut-être pas encore ailleurs, mais Dieu prépare quelque chose pour vous, ça j'en suis sûr. Mais si ça tarde un peu, que les musiciens, vous allez devoir vous serrer un peu, parce que j'y crois. Que frères et sœurs, un jour, il y aura aussi des gens sur cet endroit. Amen. Parce que Dieu, son cœur, c'est de sauver les gens. Amen. Et il veut vous placer sur la route de chacun et chacune. Gloire à Dieu, il n'a pas fini, le Seigneur. J'étais à Chalon-sur-Saône parce que je suis dans le bureau là-bas et j'ai parlé un petit peu, je me souviens plus ce que j'ai dit, j'ai pas beaucoup de mémoire. Et le lendemain, le directeur de la maison de retraite vient me voir et dit, écoute, hier j'ai été touché par une parole que tu as dit. Cette nuit, je pouvais plus supporter le drap qui touchait mon genou. Et cette nuit, le Seigneur m'a guéri de mon genou. J'avais de l'arthrose dans le genou et Dieu m'a complètement guéri. C'est un grand Dieu que nous avons. Amen. Ça vaut la peine de lui donner notre vie, de le laisser écrire. Gloire à Dieu. Alors je lui ai dit, va dire à la dame là-bas, parce que sa jambe est de travers, elle a aussi de l'arthrose. Vous savez, moi, quand j'avais 40 ans, bon, c'était hier, mais voilà. Je suis allé voir le docteur parce que quand je tournais la tête, ça craquait. Comme ça. Et ça faisait horriblement mal. Donc il m'a fait des radios. Il me dit, monsieur, c'est de l'arthrose. C'est le début. Waouh, j'ai dit, la fin, ça doit être terrible. Ça, c'est le début. J'ai dit, au frère, vous avez prié pour moi parce que moi, j'en veux pas. Ni du début, ni surtout pas la fin. Quand même. Et vous priez pour moi, et ça fait quand même déjà quelques années. Essayez d'imaginer combien d'années. Hein, ça va faire 29 ans, bientôt, que je tourne ma tête sans craquement. Alléluia. C'est un grand Dieu que j'ai, amen. Gloire à Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Je cours maintenant, de temps en temps, je fais un tour dans le village, 6 km 800. Et je marche très très vite, enfin je fais en une heure, une fois j'ai fait en 58 minutes, ça fait 7 km/h. Bon, gloire à Dieu, les gens ils disent tu marches, mais je suis en marche, amen. Ben, quelqu'un me pousse, hein. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez laisser Dieu écrire dans votre vie? Est-ce que Dieu, au travers de votre vie, ce qu'il va écrire dans votre vie, va pouvoir écrire dans la vie des autres aussi? Une vie livrée, c'est une vie abandonnée. C'est une vie qui ne réclame plus rien. C'est une vie qui ne veut pas passer à côté de ce que Dieu a comme plan pour vous. C'est de vivre intensément et présentement la volonté de Dieu. C'est être rempli du Saint-Esprit, pas seulement pour parler des langues nouvelles, c'est bien ça, mais d'être rempli de l'amour de Dieu à chaque instant et de voir les perdus comme étant perdus alors que Dieu veut les sauver. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, partout où vous allez, « Ah Seigneur, probablement cette personne est perdue et aujourd'hui je suis sur son chemin. » Et je veux lui dire quelque chose, ne serait-ce bonjour, monsieur. Vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour vous. Amen. J'ai dit ça peut-être ici, mais une fois, j'étais à la caissière, je vois une caissière, et puis j'avais acheté un truc électrique là, et puis j'ai pris des allumettes. Et la caissière me dit, monsieur, il ne faut pas d'allumettes pour allumer, c'est électrique. Je dis, vous me prenez pour un gogol ou quoi? Je sais bien qu'ils ont pas, il ne faut pas d'allumettes, mais j'ai vu les allumettes en promotion, j'ai acheté. Mais je dis, dans ma poche ici, j'ai un bouquin qui parle de vous. Elle me dit, comment ça, vous avez un bouquin qui parle de moi? Oui, il faut être un peu subtil des fois. Hein. Amen. Et si vous voulez que je vous lise un passage du bouquin, elle me dit, oui, monsieur. Où il n'y avait pas de queue, il n'y avait personne, et puis tant bien même, il y a quelqu'un, on a bien le temps de prendre 5 minutes. Dans le livre de Proverbes 31, « Qui trouvera une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Aux portes de la ville, son mari est considéré. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Avant que le soleil se lève, elle est déjà debout. Elle donne des ordres à toute sa maison. Tout ce qu'elle fait lui réussit. » N'est-ce pas? C'est votre cas, chère sœur. Amen. Elle dit, je veux le livre. Amen. Il faut choisir les passages qui touchent. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Si vous trouvez de vous dire, regardez, il faut vous repentir là, mettez-vous dans tout état, parce que vous êtes une grande voleuse. Amen. Non, non. Ça, Dieu va s'en charger. C'est lui qui va écrire. Amen. J'aime bien les Actes des apôtres, moi, et ça ne s'arrête pas au chapitre 28, contrairement à ce que des gens disent. C'est aujourd'hui les Actes des apôtres. Hein. Qui elle veut être un apôtre ici? Levez la main. Ah, mais il y en a, frère, tu aurais dû tourner. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Amen. C'est d'établir quelque chose là où il n'y a rien. Amen. Ah, gloire à Dieu. Qui veut être pasteur ici? Ah, il y en a, gloire à Dieu, amen. qui veut être bergère. C'est quoi une bergère? Si tu t'occupes d'un mouton, t'es quoi? Une bergère. Amen. Tu dois apprendre ton mouton. Allez, viens avec moi. Amen. Gloire à Dieu. On en fait des beaucoup avec les titres. Je suis pasteur. Frères et sœurs, mais chacun de nous, on peut être dans la main de Dieu. Il va écrire des choses dans ma vie, au travers de ma vie, il va écrire dans les vies des autres. Allez, dites-le, au travers de ma vie, il va écrire dans la vie des autres, parce que je veux laisser Dieu écrire à l'intérieur, il va écrire à l'extérieur aussi, amen. Mais il veut le faire, amen. Acte 8, il nous a dit, Philippe, il était en plein réveil. Ah, gloire à Dieu, j'imagine ici un jour, plein de monde, les gens qui sont saisis par Dieu, ils prophétisent, les miracles à gogo, gloire à Dieu, partout, l'œuvre de Dieu, ils poussent les gens, amen. Les gens, ils arrivent, des gens chantant là-bas, ils attendent pas ici, c'était extraordinaire, ce matin, les chants ici, j'ai beaucoup aimé, ma sœur, je suis contente de rencontrer à nouveau, je trouve que t'es plus belle en plus belle, alléluia, amen. Voilà. Qui sait parler aux femmes. Amen. Mais je rêve le rêve de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu avant de mourir. Depuis que je me suis converti, je prie pour ça. Je vais voir la gloire de Dieu. Amen. Oui, des fois, il faut un petit peu de sagesse et tout ça, mais des fois, on est un petit peu fort dans ce sens-là, tout carré, tout bien carré, et on voudrait, Dieu entre dans mon carré. Là. C'est pas vrai, c'est un petit peu comme ça, tu vois. Et s'il te plaît, ne mets pas à l'aise en débordant trop, parce qu'après, nous, moi, je sais plus quoi faire. Amen. Mais quand ça déborde, Dieu, il sait toujours quoi faire. Alléluia. Moi, je suis limité, mais lui, non. Amen. Ah, il dit à Philippe, oui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Tu vas aller dans le chemin qui est des... Quoi, Seigneur, quoi? Tu dis que je vis en plein réveil, on a besoin de moi ici, tu vois tous les gens qui se convertissent, etc. Et toi, Dieu Tout-Puissant, tu me dis d'aller dans le désert. Est-ce que tu veux que j'écrive quelque chose de nouveau dans ton cœur? Philippe, est-ce que tu veux voir ma gloire? C'est moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Je veux écrire quelque chose, une page nouvelle dans ta vie. Et Philippe est parti, il n'a pas discuté, il est allé dans le chemin qui est désert. Mais qu'est-ce que je vais trouver, Seigneur, dans le désert? Dans le désert, c'est triste quand même, dans le désert, n'est-ce pas? Il paraît que c'est là qu'on apprend à avoir soif, je suppose. Hein. Dieu écrit dans la vie de Philippe pour écrire dans la vie de l'Éthiopien. Parce qu'il y a un homme qui avait été adoré à Jérusalem, qu'il avait entendu parler de Dieu, mais son œil ne le voyait pas encore. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça, n'est-ce pas? Pourtant, ce quelqu'un avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais il va falloir que dans la vie de Job, dont finalement il restait que des souffrances et des misères, Dieu va écrire quelque chose de glorieux, amen. Puissant. Alors qu'on croit que tout est fini, tout est perdu, Dieu va écrire. Dieu va écrire dans cet homme, l'Éthiopien, l'eunuque, quelque chose de glorieux. Et il lit sans savoir ce qu'il lisait. C'était pas Daniel cette fois ici, c'était tout simplement Philippe. Que lis-tu? De qui parle? Qui parle là? Il parle de lui-même ou pas? Et lui explique les Écritures, son cœur s'ouvre, à un moment donné, il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Des gens qui veulent qu'on baptise les gens dès qu'on les rencontre, dès qu'ils trouvent Jésus, il faut les baptiser tout de suite. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que cet homme connaissait quand même tout l'arrière-plan, n'est-ce pas? Il connaissait, il lisait l'Ancien Testament. Il manquait une seule chose, c'est qu'il n'avait pas rencontré Jésus. Quand il le rencontre, il peut être baptisé. Mais aujourd'hui, dans tous ceux qui vivent comme des athées, on a besoin qu'ils apprennent à connaître qui est Jésus, d'où il vient, etc. Et après, on les baptise, et quelle joie quand on baptise quelqu'un. Le jour de Pâques, on va baptiser la dame de là, un peu au-dessus. Là. Ouais. Amen. Il dit, si tu ne ramènes pas 40 nouvelles personnes, je ne te baptise pas. L'autre fois, en prêchant, j'ai dit, vous vous rendez compte, la transformation dans la vie de l'Éthiopien, quand il rentrait sa femme, je dis, oh, sinon, c'est un eunuque, il n'y a pas de femme. Mais enfin, son entourage, certainement, quand il est rentré, il a expliqué ce qu'il avait lu, ce qu'il avait vécu. Une page nouvelle dans la vie de cet homme. Non seulement Dieu a écrit dans sa vie, mais au travers de sa vie, Dieu va écrire dans la vie de multitudes. Et Philippe, il nous est dit que le Seigneur l'a emmené à Azo. Des fois, quand je suis dans les bouchons, je dis, tu ne peux pas faire avec moi ce que tu as fait avec Philippe, s'il te plaît, Seigneur, passer au-dessus des voitures et arriver là-bas. Mais jusqu'au moment, je n'ai pas eu de réponse à ma prière. Mais ça va arriver. Peut-être c'est arrivé, je ne me suis pas aperçu, parce que l'autre fois, j'étais sur la route, puis d'un seul coup, je me dis, ben, je me trouve ici, je ne me souviens plus avoir passé tel endroit, telle loi. Et j'ai regardé l'heure, je dis, non, ça correspond, j'ai pas été enlevé comme ça. Je vais terminer par un autre passage dans le Nouveau Testament. Vous savez qu'à un moment donné, on a amené Jésus, on a amené plein de personnes pour être guéri, puis un jour, on a emmené quelqu'un, une dame, qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est dur, ça. Hein, on a emmené cette dame. Il était où l'homme? Parce que, bon, cette femme a bien fait ça avec un homme. Mais l'homme, je ne sais pas où il était, mais enfin, on a amené la femme. Et ils sont venus et ils ont dit, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de cette femme aussi? Mon dernière heure, c'est fini pour moi. Je vais mourir. J'ai essayé parfois de me mettre à la place de cette femme quand elle était là, traînée dans le temple, avec tous ces accusateurs qui étaient là. Et vous savez, avant quand on guillotinait les gens, il nous est dit que la place publique était remplie de personnes. C'était un spectacle que les gens aimaient voir. Le cœur de l'homme est dur quand même. Je restais à la maison et pleurais. J'étais là. Regardez cette femme lapidée, tuée à coups de pierre. Il venait pour éprouver Jésus, et Jésus s'est abaissé. Et il nous a dit qu'il a écrit par terre avec son doigt, et qu'il a écrit deux fois. Ça vous fait penser à Moïse sur la montagne, deux fois. Alors, j'ai jamais su réellement ce qui était écrit, et vous non plus, n'est-ce pas? Personne ne vous l'a dit, mais ce matin, vous avez de la chance. Parce que Dieu peut vous le dire. Parce que le doigt de Dieu, il écrit dans nos cœurs. Et quand Dieu s'est abaissé, Jésus s'est abaissé, il a écrit. Et il a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce qu'il écrivait, Jésus? Il écrivait pas ce que Moïse avait écrit après, à cause de l'endurcissement du cœur du peuple. Il était en train d'écrire ce que Dieu avait écrit quand Moïse était sur la montagne. Et quand Moïse était sur la montagne, écrit sur les tables, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Est-ce que ça te plairait maintenant qu'on te lapide, qu'on te tue à coups de pierre? Quelle souffrance, quel silence. Et il nous est dit que les uns après les autres, du plus âgé au plus jeune, sont partis. Est-ce que Jésus a commencé à écrire dans les cœurs quelque chose de nouveau, une page nouvelle ? Tu n'es pas là pour faire mourir, mais pour faire vivre. Est-ce que Dieu était en train d'écrire le pardon dans les cœurs de ceux aimés, ton prochain, comme toi-même ? Dis-moi, tu t'aimes comment, toi ? Tu voudrais qu'on te lapide aujourd'hui ? Tu aimerais qu'on te tue à coups de pierre ? Non, alors pars. Et Jésus, à un moment donné, après que tout le monde est parti, il lève la tête et il regarde cette femme. Où sont ceux qui t'ont condamné, qui voulaient te faire mourir ? Ils sont partis, les uns après les autres. Et Jésus regarde. Quand Jésus regarde dans les yeux, il ne regarde pas comme n'importe qui regarde. Quand Jésus regarde dans les yeux, il voit au fond de l'âme de la personne, de son cœur, de son être tout entier. Quand Jésus regarde. Et Jésus, en regardant cette femme, lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va, va et ne pêche plus. Il écrit quelque chose de nouveau dans la vie de cette femme. Je crois que plus jamais on aura trouvé cette femme dans la situation où il l'avait trouvée. Parce que quand Dieu fait un miracle, il le fait. Quand Jésus te regarde dans les yeux et qui te dit « Va, va et ne pêche plus », alors tu auras le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Parce qu'il te remplit de sa présence, de sa puissance et de sa gloire. Il te remplit la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le doigt de Dieu. Laissez Dieu écrire dans votre cœur, dans votre vie, une page nouvelle. Laissez au travers de votre vie, laissez Dieu écrire des pages nouvelles dans la vie des autres aussi. Frères et sœurs, quel amour! Si tu n'as pas compris la première fois, quand Dieu est venu te parler, il y a peut-être déjà quelque temps, il te parle à nouveau aujourd'hui, parce qu'il est riche en amour. Il voudrait tellement écrire, tu ne peux pas t'imaginer ce que Dieu voudrait faire avec ta vie, écrire dans ta vie. Arrête d'écrire toi-même. Arrête, parce que tu seras toujours découragé, comme moi j'étais découragé quand j'écrivais mon cahier, parce qu'à la deuxième page, il y avait un pâté, et parce que l'instituteur écrivait que c'était sale, et j'étais découragé. Tu es découragé parce que tu veux écrire ta vie spirituelle, mais si tu laisses Dieu écrire ta vie spirituelle, tu ne seras jamais découragé, parce que tu donneras gloire à Dieu. Dans quelque chose de nouveau dans ta vie, de profond, de puissant et de glorieux, n'est-ce pas ?